Comme les bons chefs d'entreprise, assurez la fin de carrière de vos employés sans préjudice en choisissant Sounou Assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Une relation sexuelle, c'est la rencontre de deux désirs. Pourtant, chaque désir est singulier. Pour certains, il s'éveille par les mots, pour d'autres par les parfums ou les odeurs, ou encore passe par le toucher, des gestes, voire des regards ou des sourires. Cette différence, cette originalité rendent la sexualité si complexe qu'il n'est pas simple de comprendre, d'interpréter nos propres désirs. Alors, pour bien s'épanouir à deux, c'est encore plus compliqué. Pour le couple, il s'agit d'observer ses désirs, les découvrir, réussir à en parler et, quand la relation s'installe dans la durée, parvenir à les garder en éveil au fil des mois et même des années. C'est une ambition, c'est un projet qui n'est pas forcément simple. Vie de couple, vie amoureuse, entretien du désir, identifier les goûts, appréhender les attentes, traduire les intentions et comprendre aussi parfois les limites. Comment comprendre les désirs de sa partenaire, comment l'inciter à s'exprimer. Nous attendons vos témoignages, vos questions sur la page Facebook de l'émission. Bien sûr, à notre numéro, vous y êtes déjà nombreux, au 33 84 22 75 75. Et bien sûr, le docteur Catherine Solano, sexologue, est là, bien avec nous, pour écouter vos témoignages et répondre à toutes vos questions.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Catherine Solano, vous êtes bien là, bonjour.
Bonjour Caroline.
Comprendre les envies de l'autre, être curieux, curieuse des envies de l'autre, c'est d'abord hein, bien sûr réussir à communiquer sur ce fameux désir, docteur Solano.
Oui, et puis ce que je vais dire qui est important, c'est que nous sommes tous différents. Quand on a une idée en disant les femmes sont comme ci, les hommes comme ça, alors on se trompe souvent. Par exemple, pas plus tard qu'hier, j'ai vu un patient, il me dit, moi, j'ai du désir mais je n'ose pas le manifester à ma femme, je lui dis jamais, alors elle est déçue, elle a l'impression que je la désire pas et je sais pas comment faire, c'est pas dans mon caractère. Donc, alors qu'on entend souvent ça en sens inverse, mais tout existe, on est tous très différents. C'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute et pas seulement avoir des idées préconçues et les plaquer sur l'autre.
Alors, même quand on partage l'intimité de sa partenaire, hein, il y a la nudité, il y a le quotidien, malgré tout, on peut avoir des réserves, on peut avoir une certaine pudeur. Et des fois, docteur Catherine Solano, il y a des envies qui ne correspondent pas forcément à celles de l'autre.
Voilà, alors dans un couple qui dure, il y a toujours des envies qui correspondent pas à celles de l'autre. On n'est pas synchronisé exactement au même moment, on n'est pas deux robots qu'on a remontés en même temps. Forcément, il y a des adaptations nécessaires et c'est pour ça qu'on fait une émission là-dessus, parce que c'est pas évident et ça n'est évident pour aucun couple. Chacun a par moment des difficultés à se mettre en phase. Il faut se dire que c'est normal et pas se dire c'est un problème, c'est qu'on s'entend pas, ça pourra pas durer. Non, c'est partout comme ça.
Chacun a son histoire. Justement, oui. On va entendre les questions des auditrices et des auditeurs tout de suite.
Priorité santé sur RFI.
Et nous donnons la parole à Alexandre qui nous appelle de la région parisienne. Bonjour Alexandre.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Bonjour Alexandre.
Catherine Solano est à votre écoute, allez-y.
Bonjour madame. En fait, moi j'ai un souci. Souvent, mon partenaire ne vient pas vers moi. Donc je suis toujours obligé de la forcer pour qu'on puisse avoir des relations sexuelles. Franchement, moi ça me dérange. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je lui pose des questions, c'est toujours pareil.
Vous souhaiteriez qu'elle prenne l'initiative, c'est ça, Alexandre?
Exactement.
Vous lui en parlez?
Oui, on en parle, mais après, c'est tout le temps les mêmes choses. C'est tout le temps la même chose. Il faut que j'ai la dolente avant qu'on passe à l'acte.
Et ça crée des conflits entre vous?
Mais pas de conflits, mais moi, ça me met mal à l'aise.
Mais quand vous dites « il faut que je la dorlote », vous, ça vous dérange de la dorloter avant, comme vous dites, de passer à l'acte? Ça vous dérange, cette phase d'approche et de câlin?
Ça me dérange, mais je ne sais pas si ça va vite avec ça.
Pardon, j'ai pas entendu.
Vous me recevez?
Oui, on vous entend, allez-y.
Oui, j'aimerais que ça soit l'initiative vient d'elle souvent.
D'accord, vous voudriez qu'il y ait un rapport qui soit plus mutuel, que vous sentiez l'envie de son côté. Docteur Catherine Solano, qu'est-ce que vous pouvez dire à Alexandre?
Mais je peux dire que En fait, c'est une question dans presque tous les couples, c'est-à-dire que quand l'un des deux a du désir, ben l'autre, il n'en a pas forcément au même moment. Et même si c'est vrai que le désir de l'autre, c'est, on dit des fois, c'est un aphrodisiaque, c'est-à-dire que quand on sait qu'on est désiré, ça peut donner envie, mais c'est pas instantané. C'est-à-dire que il faut, vous par exemple, vous avez du désir, votre partenaire, pendant ce temps-là, elle était en train de penser à autre chose, il va falloir déclencher son désir, et souvent pour ça, bah, c'est vrai qu'il faut dorloter une femme. Presque toutes les femmes sont comme ça, beaucoup d'hommes aussi sont comme ça. Quand vous les cueillez, si on peut dire, à un moment où bah, elle était pas en train d'y penser, il faut créer les conditions qui vont lui donner du désir. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle le désir de réponse. Alors, les femmes ont aussi du désir pulsionnel, des envies par moment. Le problème, c'est que l'éducation féminine n'est pas du tout la même que l'éducation masculine. À la limite, on va valoriser un garçon qui plaît aux filles, on va dire oui, il plaît beaucoup, il est... voilà. Une fille qui plaît au garçon, on va lui dire attention, tu vois. Donc, notre société a tendance à essayer d'étouffer un peu le désir féminin, pas forcément le désir, mais son expression, que ça se voit pas trop. Vous voyez, une femme qui a envie de se sentir désirable dans la rue, qui met un décolleté, une mini-jupe, on va dire, oh là là, elle
c'est
en fait...
C'est vite taxé de provocation.
Oui, voilà, on va dire, c'est de la provocation, par exemple, où elle en fait trop. Du coup, si vous voulez, alors évidemment, on dit pas aux femmes, quand tu seras mariée ou quand tu seras en couple, il faudra faire pareil. Il faudra cacher ton décolleté. Mais on leur apprend pas à se comporter en accord avec du désir. Du coup, il a tendance à s'affaiblir. Et c'est vrai que quand une femme a un homme qu'il aime et qu'il la désire, c'est à lui de petit à petit l'aider à s'exprimer. Et alors, une chose que je dis souvent en consultation aux hommes, c'est, vous savez, c'est pas en disant à votre femme, t'as pas souvent envie, t'es pas marrante, que ça va lui donner envie. C'est plutôt en lui faisant des compliments, en lui disant qu'elle est belle, que vous la désirez, que vous l'aimez, que vous avez envie de faire plein de choses avec elle, qu'elle n'est pas comme les autres pour vous. Et c'est aussi, justement, c'est le sujet de cette émission, en lui demandant qu'est-ce qui, toi, te donne le plus envie. Par exemple, quand je suis habillée, c'est quoi ta tenue préférée où tu me trouves le plus bel homme? C'est quoi le geste que tu préfères que je fasse? Alors, au début, peut-être que quand on est en couple depuis pas longtemps, elle n'osera pas, mais petit à petit, si vous allez doucement, en quelques temps, bah, petit à petit, ça vient.
Et Alexandre, ça a toujours été comme ça ou au début de votre relation, vous sentiez davantage de désir? Alexandre, vous êtes toujours avec nous? Vous êtes là, mais... Ah, non, on a perdu.
Alors,
Alexandre.
Je vais ajouter une petite chose, Péroline, parce que j'ai cru entendre un bébé derrière.
On a entendu effectivement quelques babillements.
Si c'était le sien, bon, je ne sais pas, hein, celui de son ami, sa partenaire. C'est vrai qu'aussi, quand une femme vient d'avoir un enfant, eh ben, elle a une baisse du désir pendant souvent plusieurs mois. C'est normal parce qu'il y a les hormones, c'est pas uniquement dans la tête, hein, c'est les hormones qui font ça. C'est le temps qu'on passe avec le bébé, y compris la nuit, qui fatigue, qui fait qu'on n'a plus tellement d'énergie sexuelle. Et puis, c'est aussi le fait que, j'irais que la nature a prévu que la maman se concentre sur son au début pour sa survie, tout simplement. Donc, il y a une cour à refaire pour retrouver le désir avec sa partenaire.
Et justement, sur cet aspect des hormones, on a eu un message Facebook d'Olivier qui est à Niort en France et il nous explique « Depuis plusieurs mois, ma conjointe ne ressent plus de désir alors que nous avions une vie sexuelle épanouie auparavant. On en a beaucoup parlé, on ne comprend pas d'où ça vient. Elle a rencontré son gynécologue qui a détecté une baisse des hormones sexuelles. Ce déséquilibre hormonal, c'est la question d'Olivier donc, pourrait-il être à l'origine de la lassitude sexuelle ressentie par ma conjointe ?»
Ah oui, tout à fait, parce que notre équilibre, y compris sexuel, dépend de nos hormones. Quand on a, par exemple, un médicament qui atteint le fonctionnement des hormones, ça arrive souvent, il y a pas mal de médicaments, par exemple les antidépresseurs, il faut être certains neuroleptiques, même la pilule contraceptive, qui peuvent faire diminuer la testostérone ou augmenter la prolactine, et du coup ça provoque des baisses, des chutes vraiment importantes du désir, ou des maladies hormonales endocriniennes, comme on dit, donc c'est vraiment important aussi. Et je disais il y a cette semaine à une de mes patientes qui avait plus de désir depuis qu'elle prend la pilule, son copain lui dit « oh c'est pas marrant », mais je lui dis « mais non seulement c'est vous qui prenez le médicament, vous avez envie d'avoir du désir, mais on vous critique. » Donc elle m'a dit, je vais mettre un stérilet au cuivre, mais j'ai rendez-vous fin juin. Bon, mais alors, est-ce que c'est ça? Pas forcément non plus, hein, mais il faut bien voir qu'une femme fonctionne pas seulement... On a eu tendance à dire pendant des siècles, tout est dans la tête chez les femmes. Eh ben non, elles ont aussi un corps et des hormones.
Étonnant. On va prendre un autre auditeur, c'est Abdoulaye. C'est Abdoulaye que l'on va rejoindre tout à l'heure. On reste sur notre page Facebook, hein, parce qu'on a eu pas mal de messages, avec Lamine qui est à Bamako au Mali et qui nous explique, alors voilà ce qu'il nous dit. Lamine, je suis mariée depuis plus de 20 ans. J'ai eu une relation extra-conjugale passionnelle. Elle n'a pas duré. Après la rupture, eh bien, je me suis retrouvée en phase avec ma femme sans qu'elle le sache. Est-ce que cette relation a pu raviver mon désir, ma flamme pour ma femme?
Alors oui, tout à fait. Ça peut arriver que ça ravive la flamme. Néanmoins, ça peut arriver aussi qu'il se produise exactement le contraire, que ça soit une catastrophe dans le couple. Donc, je peux vous dire qu'en tant que sexologue, c'est certainement pas une prescription qu'on fait. On dit pas à nos patients, vous n'avez pas de désir, allez voir ailleurs, ça va revenir, parce que ça peut être totalement le contraire. Cela dit, j'ai vu il y a pas longtemps une de mes patientes qui a eu une relation extra-conjugale, une femme. Et donc, c'était très intéressant parce qu'elle adore son mari. C'est un couple qui s'entend très bien, mais son mari a été au chômage et il était en déprime, il s'occupait plus de sa femme. Et donc, elle s'est sentie complètement délaissée. Ce qui fait que, il y a un homme qui l'a soutenue quand son papa est décédé parce qu'elle avait pas le moral, un ami, et de fil en aiguille, c'est devenu un amant. Et au bout de plusieurs mois de relation extra-conjugale, elle s'est dit, mais moi j'aime mon mari, j'ai pas envie d'avoir une relation extra-conjugale, j'en avais jamais eu, donc j'arrête, c'est plus possible. Elle a dit à cet homme, non, écoute, c'est fini. 3 mois après, son mari, par un ami qui lui voulait du bien, lui raconte, ta femme a eu une liaison. Et donc cet homme-là, elle me dit, vous savez, mon mari s'est mis à pleurer, il m'a dit, mais tu es tout ce qu'il y a de plus important pour moi dans la vie, toi et nos enfants. Et donc, elle me dit, je me suis rendu compte que mon mari m'aimait vraiment. Parce qu'en fait, comme il était déprimé, qu'il s'occupait plus d'elle, elle se disait, bon, mon mari m'aime plus. Raison pour laquelle elle avait été voir ailleurs. Et elle me dit, elle y arrive avec un grand sourire, en fait, je me disais, elle me raconte des choses pas très drôles. Et elle me dit, mais mon mari, ça a été un électrochoc. Depuis, il est formidable avec moi, il s'occupe de moi. Et depuis, j'ai retrouvé du désir parce qu'elle avait plus aucun désir pour son mari. Et elle me dit, on va bientôt partir en petit week-end tous les deux. On fait l'amour plus souvent. Et finalement, je conclue en lui disant, ça a été un mal pour un bien.
C'est là où vous disiez tout à l'heure, chaque histoire est singulière. Voilà. C'est vraiment un cas particulier.
Voilà. Mais alors, j'ai vu le contraire souvent aussi. C'est-à-dire que, des choses catastrophiques. Je pense par exemple à une patiente qui a eu un jour une aventure extra-conjugale, un jour. Et elle, c'est arrivé, mettons, 10 ans avant. Elle avait un congrès, elle avait trop bu, enfin voilà. Et elle l'a dit à son mari 10 ans après. Ils s'entendaient très bien. Son mari lui a dit, on divorce. Ils ont divorcé. Et elle disait, depuis, c'est la haine. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça a tout brisé.
Ah oui, c'est une catastrophe pour leurs enfants aussi, parce qu'ils se déchirent. Enfin, vous voyez, alors on se dit, pourquoi elle n'a pas tenu sa langue? C'était pas forcément... elle pensait que c'était pas si grave, que c'était du passé. Donc, il faut faire très attention, parce qu'on se connaît pas forcément soi-même, et on connaît pas forcément les réactions de l'autre. Le mieux, c'est de s'aimer, de cultiver, je dirais, le mieux. Dans les exemples qu'on raconte, c'est des couples qui ont eu des tensions. C'est pour ça qu'il y a eu des... Donc, le mieux, c'est d'essayer de résoudre le plus vite possible les tensions.
Et on va donner tout de suite la parole à Abdoulaye, que l'on a retrouvé à Ouagadougou, hein, au Burkina Faso. Bonjour, Abdoulaye.
Bonjour, RFI. Bonjour, docteur.
Bonjour, Abdoulaye.
Catherine Solano est à votre écoute. Allez-y.
Bon, en fait, moi, avec ma partenaire, j'ai l'impression qu'on a un grand déphasage quant à nos désirs sexuels. Donc, je m'explique. Quand on est ensemble, moi, par exemple, j'aime vraiment faire des caresses et j'aime vraiment recevoir des caresses de ma partenaire. Mm-hmm. Et quand nous passons à l'acte sexuel, j'aime vraiment varier les positions. Je n'aime pas trop faire l'amour dans une seule position. Mm-hmm. Cependant, avec elle, ce n'est pas le cas. Quand je la caresse, elle ne me repousse pas, mais elle ne me fait pas de caresses en retour. Et quand nous voulons faire l'amour, elle m'a clairement dit qu'elle n'aime pas faire l'amour dans d'autres positions, la position classique dans laquelle on la fait. Et j'ai essayé de lui en parler. Elle m'a dit que si je le faisais avec mes ex, de savoir qu'avec elle, ça ne va pas marcher, je ne pourrais pas faire des trucs avec elle. Voilà, du coup, je suis en train de voir, je ne sais pas si c'est à moi de m'adapter à elle ou s'il y a une méthode par laquelle je peux parler avec elle afin qu'elle aussi elle me comprenne et essaie de changer de son côté.
Abdoulaye, qui est à l'écoute de sa partenaire, docteur Catherine Solano, qui respecte ses choix, mais qui a envie peut-être que les choses changent un petit peu.
Voilà, alors je dirais, quand vous dites « est-ce que je dois respecter ma partenaire et m'adapter ?», je dirais oui. Et vous dites, où est-ce que c'est elle qui doit me respecter et s'adapter? Je dirais oui aussi. C'est-à-dire que quand on est deux, on doit s'adapter à deux. Parce que s'il y en a un seul qui s'adapte à 100% à l'autre, eh bien, on est frustré. Par exemple, si vous vous dites, bon, ben, elle veut faire l'amour que dans une position, ok, on fera comme ça toute la vie. Elle veut pas me faire de caresses, ok, je recevrai jamais de caresses. Il y a un moment où vous allez vous dire, au secours, moi, ça me convient pas. De même, si vous la forcez à faire 40 positions à chaque fois et à vous faire des caresses alors qu'elle a pas envie, elle va se dire, au secours, moi c'est pas possible. Donc en fait la meilleure solution dans un couple, c'est toujours chacun de faire un petit pas vers l'autre, de lui dire, par exemple de votre côté, de lui dire, écoute, je comprends que t'as pas envie de faire forcément beaucoup de positions, mais ok, la position classique, moi ça j'aime bien aussi, hein, enfin il n'y a pas de raison, mais peut-être qu'on pourrait vous essayer de la faire varier un tout petit peu, mettons deux positions, d'en trouver une autre peut-être qui ressemble un peu à la première, peut-être en lui disant, tu sais, quand la femme est sur l'homme, c'est une position où souvent les femmes disent qu'elles ont plus de plaisir. Vous lui dites que c'est moi qui vous l'ai dit, pas vos ex. Surtout, racontez pas ce que vous faisiez avec vos ex. Ça tue
ça
tout.
Bloque.
Ça bloque, ça donne pas envie. Et puis, peut-être, je pensais par rapport aux caresses. Ça, c'est une question que vous soulevez, Abdoulaye, qui est très importante. Souvent, quand on parle de préliminaire, on a l'impression que l'homme doit faire des caresses à la femme. Et je dirais, on a raison, c'est vrai. Mais les préliminaires, c'est aussi la femme qui fait des caresses à l'homme. Pas forcément des caresses sexuelles, un peu toutes sortes de caresses. Donc, je dirais aux femmes qui nous écoutent, c'est important aussi, un homme aussi a besoin de câlins. Après, il y a des femmes qui vont dire, mon mari s'intéresse qu'au sexe. Ben, s'il n'a jamais reçu de caresses sur les épaules, dans le cou, sur les pieds, forcément, il connaît pas. Donc, peut-être que vous pourriez commencer par lui dire, écoute, je sais que t'aimes pas me faire beaucoup de caresses, est-ce que tu pourrais me faire un massage des pieds un jour? Ou un massage des épaules, du dos, pour l'habituer un petit peu à toucher votre corps de manière amicale, attentionnée, d'être à l'écoute de votre corps et petit à petit évoluer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je pense que vous avez raison de vouloir élargir les possibles, mais ce qu'il faut, c'est le faire doucement. Parce que on ne peut pas changer du tout au tout. Si elle est comme ça, c'est pas forcément parce qu'elle en a pas envie, c'est très certainement parce qu'elle a eu une éducation. Dans sa famille, on ne se touchait pas, on était peut-être un peu rigide. Du coup, elle sait pas tellement comment faire autrement.
Voilà, Abdoulaye, pour ces conseils du docteur Catherine Solano. On vous souhaite une très bonne journée à Ouaga. On part tout de suite pour le Cameroun. Où on va retrouver Mariole. Bonjour, Mariole.
Bonjour Caroline, bonjour Docteur Anno et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On est à votre écoute.
D'accord. Moi, ma préoccupation, c'est beaucoup plus au niveau des relations qui sont à distance. Mm-hmm. Parce que pour les partenaires qui sont à distance, on a des envies. Parfois, on voudrait utiliser les réseaux sociaux pour faire, par exemple, des photos, des vidéos nudes. Mais parfois, on a un peu peur parce qu'il y a des pirates qui sont dans les réseaux sociaux et il y a des personnes qui se retrouvent souvent avec des photos et des vidéos qui sont exposées. Donc, comment on peut faire pour garder ce désir, satisfaire le désir du partenaire avec tous ces problèmes-là?
Il y a les pirates, Mariole, mais il y a aussi, après, quand une relation s'arrête, voire s'abîme, le risque de voir cette personne conserver ses images et éventuellement, même si on ne va pas soupçonner tout le monde, bien sûr, les utiliser dans une mauvaise intention. C'est se rendre très vulnérable que de donner ces images via Internet. Il peut aussi, les personnes peuvent les montrer à d'autres personnes. On peut avoir quand même des choses qui sont assez très blessantes, même pour son amour propre. C'est quelque chose de compliqué. C'est pas facile forcément non plus de dire non à des réponses, à des questions pressantes. Mais docteur Catherine Solano, qu'est-ce que vous dites à Mariole là-dessus, sur ces photos, sur ces relations par image et par réseau?
Alors moi, c'est simple, Caroline, je suis contente de vous entendre parce que je pense la même chose que vous. Moi, vraiment, c'est une question très importante parce qu'il y a énormément de problèmes actuellement. Et ben moi, je pense qu'il faut totalement refuser ces pratiques parce que c'est très dangereux.
On a eu dans l'actualité des cas de jeunes femmes, notamment, surtout des jeunes femmes, qui se retrouvaient exposées comme ça dans des conditions absolument abominables.
Parce que quand vous avez un amoureux, il vous aime, tout va bien. Et puis, si jamais vous lui dites, écoute, moi, je veux arrêter parce que pour une raison ou une autre, c'est votre droit.
On peut pas récupérer les photos.
Vous pouvez pas récupérer les photos. Il peut les montrer à, d'ailleurs, déjà, les très jeunes, pas forcément pensant faire une chose catastrophique. Je dis pas que c'est forcément, vont les montrer à leurs copains qui les qui vont même les photographier, vous voyez, même sans, s'ils les envoient pas. Et après, vous allez vous retrouver avec plein de gens qui disent, tiens, j'ai vu Mariole toute nue, vous avez vu les fesses qu'elle a, etc. Il y a même eu des suicides, hein. On ira jusqu'à parler de ça, de choses comme ça, de jeunes filles qui se sont fait harceler. Je pense à une jeune fille qui a changé de lycée et dans l'autre lycée, bah, les photos en sont enterrées aussi parce qu'une fois sur Internet, ça peut circuler partout. Donc moi, je pense que, parce que, alors, vous dites une chose très importante, si je veux faire plaisir à l'autre, si je veux répondre à ses désirs, vous avez raison, quand on aime quelqu'un, on a envie de répondre à ses désirs et de lui faire plaisir. Mais la réciproque est vraie. Si vous, ça vous fait pas plaisir de donner des photos nues, ou si vous vous dites, moi, ça me met à risque, on sait jamais ce qui peut se passer, même un copain peut lui piquer son téléphone pendant 5 minutes et envoyer les photos à 10 personnes ou à tous. Donc moi, je trouve que ce sont des pratiques qui sont liés aux réseaux sociaux, mais qui sont franchement catastrophiques. Parce que, en plus, je vais vous dire une autre chose. Les photos de nu, moi, un corps nu, je trouve ça très beau. La sculpture de nu, les photos artistiques de nu, très souvent, quand on fait soi-même des selfies, bah, c'est moche et c'est raté. Donc, non seulement vous allez envoyer des photos, mais en plus.
C'est pour être dévalorisant.
C'est pour être dévalorisant, exactement. Donc là, je vous dis franchement, Caroline et moi, on est d'accord sur ce point-là.
Et vous, Mariole, vous en pensez quoi? Vous avez des réserves, hein, c'est ce qu'on entend?
Oui, un petit peu de réserve, mais bon, le partenaire, parfois, il garantit qu'il va supprimer la photo, etc. Mais bon, je sais pas comment faire pour...
Ben moi, je dirais, prends des photos avec tes yeux. Hein. Moi, c'est ce que je fais quand je voyage. Je me dis, il y a des gens, ils sont tout le temps derrière leur appareil photo. Moi, je regarde et je fais une photo avec mes yeux. Et puis voilà, il l'a dans sa tête. Et c'est souvent beaucoup plus beau qu'une photo, vous voyez?
D'accord.
Bon, vous souhaite une bonne journée, Mariole. Hein. Très bonne journée à vous. On part tout de suite pour la République démocratique du Congo, Lubumbashi, où l'on retrouve Bruno. Bonjour, Bruno.
Bonjour, Caroline.
Docteur Catherine
bonjour,
Solano.
Bonjour, docteur Solano.
Oui,
bonjour,
à votre
Bruno.
Écoute. Allez-y.
Voilà, j'ai un petit souci. J'ai 24 ans. Je suis dans une relation avec une fille il y a une année. Et à nos débuts, on a eu certains entendements selon lesquels il fallait que il fallait une certaine abstinence, puisque ben on s'était dit qu'il fallait essayer de voir un peu si on peut aller loin et peut-être parvenir à se marier, voilà. Et mais il se fait que quand on est ensemble, et il y a une certaine forte émotion et parfois on s'emballe. Et la fille elle a commencé à avoir peur, et parfois j'ai peur aussi de la perdre un peu, puisque je l'avais garanti que je pouvais bien m'abstenir et tout et tout. Alors j'aimerais que vous puissiez me dire comment parvenir à se maîtriser sur le plan sexuel parfois et parvenir à avoir un couple équilibré. Mmh. Parce que je suis signale aussi que j'ai 24 ans mais je n'ai jamais eu des rapports sexuels. Voilà. Alors parfois aussi c'est stressant pour moi parce qu'il y a cette grande envie pour moi de faire, mais je suis dans une relation où on s'était dit de ne pas le faire et voilà.
Bruno, donc, il ne...
Comment gérer ?
Oui, c'est plus contenir son désir qu'accorder ses désirs. Hein.
Oui.
Alors moi, je trouve votre témoignage très intéressant. Ça me fait penser à un collègue à moi qui avait été invité dans un lycée et qui avait fait de l'éducation sexuelle. Il avait dit, ça me fait rire quand j'y pense, mais il avait dit aux jeunes, une fille avait dit, comment savoir qu'un garçon est bien ? Et il lui avait dit, écoutez, quand vous dansez un slow avec lui, il vous serre contre vous et vous sentez qu'il a une érection. Bon, il a jamais été réinvité par les parents qui ont dit au secours et il parle de sexe à nos enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes un jeune homme normal et elle aussi. Et c'est extrêmement bon signe que vous ayez des désirs comme ça difficiles à contenir parce que ça veut dire que vous êtes un jeune homme qui fonctionne bien sexuellement, que vous avez du désir pour votre ami. Et je pense à une dame qui est âgée maintenant qui me disait, vous savez, nous, on s'aimait beaucoup avec mon mari quand on était fiancés, on n'avait pas de rapport sexuel et on était obsédés sexuels, on pensait qu'à ça. Elle me dit, je sais pas si l'abstinence sexuelle avant le mariage, c'est si bien que ça parce qu'on s'en pensait plus qu'à ça. En même temps, moi, je vois le contraire, c'est-à-dire des couples qui disent, nous, on n'a eu aucun problème avec l'abstinence avant le mariage. Ça nous gênait pas du tout. Et en fait, c'est des couples qui viennent consulter après parce qu'en fait, ils avaient des problèmes sexuels et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas tellement de désir parce qu'il y avait des blocages importants. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est normal, il faut pas vous dire que vous n'allez pas avoir un couple équilibré après. Ensuite,
Il y a peut-être une autre question, hein, Bruno. Peut-être que je suis indiscrète, mais vous comptez peut-être vous unir dans combien de temps? Ça va durer combien de temps votre abstinence? Parce que à la longue, ça risque d'être un petit peu compliqué, non?
Ben, parce que je pense plus ou moins 8 ans.
8 ans. Ah, c'est très 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 long, 8 ans. Pourquoi vous voulez attendre autant? 24 ans, c'est pas 15 ans.
Ben oui, puisque ben je dois finir, Lucie doit finir ses études, voilà.
C'est ça. Et vous n'allez pas finir avant 8 ans?
Moi, je finirai avant 8 ans, mais ben, je dépends beaucoup plus d'elle, parce que ses études sont de longues études.
Mmh. Parce que alors je vais vous dire, bon, les études s'empêchent pas forcément de se marier, surtout que maintenant il y a quand même une contraception, parce que c'est vrai qu'autrefois si on se mariait à 18 ans et qu'à 23 ans on avait déjà 4 enfants, c'était un peu dur de continuer des études, faut être honnête, mais maintenant on peut très bien se marier et décider de retarder
l'arrivée du premier bébé.
Parce que vous voyez, autant retarder les rapports sexuels quand on se connaît quelques mois, c'est normal et c'est même peut-être pas mal parce que ça permet de se faire des caresses, etc., de se connaître, d'être à l'aise l'un avec l'autre, surtout quand on est jeune. Autant retarder de 8 ans, vous voyez, ça vous fera 32 ans, quelque chose comme ça, je suis pas très douée en calcul. C'est très difficile. Donc dans ces cas-là, ce que font beaucoup de couples pour trouver leur équilibre, c'est d'avoir des relations sexuelles mais sans pénétration, c'est-à-dire de pas avoir des rapports sexuels complets. Ça, il n'y a pas de risque de grossesse ni d'infection sexuellement transmissible. Et on peut se sentir en phase avec sa religion si c'est pour un motif religieux. Mais ne rien faire du tout, c'est presque... Moi, je pense que ça a presque un côté inhumain. On ne respecte pas notre nature humaine qui nous pousse vers l'autre et c'est quelque chose de naturel. Et elle n'a pas à avoir peur, votre amie, justement. Vous l'aimez, vous la désirez. Vous avez des projets, même dans 8 ans avec elle. Vous voyez loin ensemble, donc c'est un peu dommage. Moi, à votre place, j'essaierai de voir si on ne peut pas se marier plus tôt en trouvant une solution. Après, je ne suis pas à votre place non plus. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pardon?
Qu'est-ce que vous en pensez, justement?
Je n'ai pas bien compris.
Justement, sur...
Oui, je pense que...
Oui.
Mmh. Oui, je pense que ben comme vous venez de dire, on pourra peut-être parler, essayer de voir si on peut raccourcir un peu les choses et comme vous avez dit aussi, essayer de faire sans pénétration. Voilà.
Voilà, deux conseils du docteur Catherine Solano. On vous souhaite une bonne journée à Lubumbashi. Bruno, on part pour la Centrafrique, pour Bangui, où l'on retrouve Peter. Bonjour Peter.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Peter. On vous écoute, allez-y.
Ok, ben moi j'ai ma femme, on a fait plus de 10 ans avec elle, mm-hmm. et on a 3 enfants. Et la quatrième, ça s'est mal passé parce que il a eu mort-né, mm-hmm. et elle avait eu des problèmes d'utérus et puis la femme est morte. Alors après cette opération, c'était depuis 2012. Après cette opération en 2012, il y a eu presque 3 ans et demi, on était là, on était bien, on faisait tout ensemble. Mais après, il y a cela maintenant 3 ans et demi, et elle n'a pas l'envie de faire l'amour avec moi. Et puis, chaque fois, il faut que j'ai la force. Alors, à force de la forcer, ça devient des viols que moi, je ne veux pas. Alors, si on discute avec elle, on essaie de trouver, j'essaie un peu de comprendre ce qui se passe. Et elle se plaint, elle dit non, elle aussi, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Cependant, quand j'ai l'envie et que je la demande, à ce moment-là, elle n'a pas l'envie. Peut-être que j'ai la force un peu, on fait l'amour. Et puis, par après, peut-être la nuit, dans des heures tardives. Et maintenant, c'est à cette heure-là qu'elle a l'envie. Moi, quand j'ai l'envie, elle n'a pas l'envie. Et quand elle a l'envie, elle ne fait pas signe aussi. Donc, voilà un peu l'anomalie qu'on a avec elle. Et je ne sais pas. Je voulais un peu avoir des conseils. Si, par exemple, si je ne sais pas si c'est à cause de l'opération qu'elle avait eue, peut-être c'est ça qui a fait qu'elle a perdu l'envie de faire l'amour avec moi. Ou bien si c'est quoi, je voulais un peu avoir votre avis, votre conseil sur c'est pour elle.
Docteur Catherine Solano, déjà, dans ce que vient de nous dire Peter, il y a un mot hein, qu'on retient, mm-hmm. c'est forcer. Forcer, c'est pas quelque chose qui va avec l'amour et avec les relations sexuelles, c'est évident.
Oui, c'est que il y a plein de choses à dire. Déjà, forcer quelqu'un, vous avez même utilisé le mot viol, c'est quand on n'a pas envie, ça bloque encore plus. Donc, et ça peut suffire, ça pourrait, c'est peut-être pas que ça, hein, ça pourrait suffire à expliquer son blocage au niveau de la sexualité. Parce que si une femme n'a pas envie une fois, qu'elle se force elle-même, déjà, c'est pas terrible. Bon, ça peut passer. Si une deuxième fois elle se force et que son conjoint la force et qu'à chaque fois elle se force, bah son désir, il diminue de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Le désir a horreur des obligations et donc plus on force, plus on oblige, moins ça fonctionne. Donc la première chose, ça serait ça. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est quand même votre femme, elle a parfois envie, mais j'ai pas bien compris. C'est dans la nuit, vous dites qu'elle a envie, j'ai pas très bien compris. Non?
Bon, au moment où moi j'ai l'envie que je la demande, à cette heure-là, elle ne réagit pas. Si je la touche, elle s'énerve.
Oui.
Mais selon ce qu'elle m'a dit, parfois, si je suis en voyage, après moi, elle a toutefois, elle a l'envie de moi. Et si elle me voit comme ça, elle n'a plus l'envie. Mais si je la demande, elle n'a pas l'envie. Et
ah, c'est quand vous êtes loin.
Si je ne suis pas là ou bien la nuit, quand on dort comme ça, elle a l'envie subitement.
Est-ce que vous lui avez dit, la nuit, quand on dort, si tu as envie subitement, ben, réveille-moi. Vous lui avez dit, moi j'ai un patient.
Oui, je l'ai déjà dit ça.
Oui.
Oui, je l'ai déjà dit ça parce qu'on a discuté de cela il y a cela une semaine.
Oui.
Je l'ai dit ça, je l'ai dit, bon, quand toi tu as envie, tu me fais signe.
Oui.
Tu me réveilles, même si c'est la nuit, tu me réveilles. Et puis, parce que je cherche à tout moyen pour remédier à cette situation.
Mm-hmm.
Alors, ben, jusque-là, elle ne m'a pas encore réveillé une fois, mais elle m'a dit que ça allait arriver une fois après notre discussion encore.
Ah oui. Et alors, faut lui dire comment vous réveiller. Tapote-moi. Moi, là, j'ai un patient qui m'a dit, moi, j'aimais beaucoup ma femme me réveiller des fois la nuit. Elle appuyait sur le matelas, elle me faisait bouger un peu et je me réveillais. Demandez-lui. Non, mais ça paraît bête comme détail, mais peut-être qu'il faut lui dire, caresse-moi l'épaule ou, parce qu'elle sait pas comment vous réveiller. Elle, voyez, dites-lui, fais comme ci ou comme ça pour qu'elle ose le faire. Bon. Ça, c'est un petit détail, mais ça peut jouer. Ceci dit, peut-être qu'elle va pas vous réveiller, peut-être non plus, parce que si vous voulez, ça veut dire que, d'abord, ça veut dire quand même qu'elle vous aime, votre femme, parce que quand vous êtes loin, elle a envie par moment ou la nuit. Mais ça veut dire qu'elle a peur de la sexualité. Il y a quelque chose qui lui fait peur. Soit c'est le fait d'avoir été forcé pas mal de fois. Hein, soit peut-être que vous pourriez aussi faire une technique, c'est je m'allonge sur le dos tout nu. Sur le lit, et tu t'occupes de moi, même si tu n'as pas envie, on fait pas forcément l'amour, mais tu me fais des caresses pour lui montrer que vous pouvez rester passif. Et puis, il y a quand même une question que je me posais, c'est déjà, est-ce qu'elle a ses règles toujours, votre femme? A-t-elle toujours
oui,
des règles?
Elle a ses règles.
D'accord, parce que je voulais savoir si elle gardait ses ovaires. Donc, au niveau des hormones, ça fonctionne.
Et est-ce qu'elle prend une contraception parce qu'elle a eu cet accident avec ce bébé? Elle a perdu un bébé. Est-ce qu'elle a encore une envie de grossesse dans votre couple ou c'est quelque chose que vous ne voulez plus?
Sinon, à l'hôpital, dès qu'on l'a opéré, on l'avait déconseillé de prendre encore la grossesse et puis on l'avait mis les Jadel. On l'a posé les Jadel.
Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, c'est un stérilet hormonal. Alors, c'est un stérilet hormonal, mais des fois, ça bloque le désir. Hein. Il faut savoir ça. Néanmoins, c'est peut-être pas ça, puisque pendant trois ans, elle avait encore envie. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que votre femme, elle a quand même vécu un accident qui est traumatisant, c'est d'avoir un bébé mort-né. Et ça, des fois, est-ce que quand elle en parle, pour elle, c'est difficile? Est-ce qu'elle est triste encore ou est-ce que ça y est, elle a passé le cap?
Oui, c'est triste quand elle en pense et puis on en parle et c'est triste pour elle.
Ah ouais, parce que quelquefois aussi, alors en France, moi je fais des séances de psychothérapie quand on a vécu un traumatisme parce que perdre un bébé, ça peut bloquer la sexualité. Et il y a une technique aussi qui est très simple qu'on peut faire, c'est de prendre un médicament qu'on appelle un bêta-bloquant et de raconter plusieurs fois cet événement parce que le médicament bloque un peu les émotions et ça aide le cerveau à intégrer ce souvenir et à être moins traumatisé par lui. Peut-être que ça serait une solution aussi de faire quelque chose comme ça. Faudrait que je vous envoie le nom de ce médicament et la technique pour demander à un médecin s'il peut lui prescrire. Voyez,
en discuter avec un médecin avant pour voir si ça correspond
à
ce qui pourrait un petit peu améliorer la situation de votre épouse.
Mais en tout cas, moi, ce qui est important, franchement, c'est de pas la forcer parce que sinon, ça va empirer. Et de l'inciter à vous réveiller possible.
Ce sont déjà deux premiers conseils. Peter, on vous souhaite une très bonne journée à Bangui, en Centrafrique. On part tout de suite pour le Cameroun, pour Yaoundé, où l'on retrouve Gervais. Bonjour Gervais.
Bonjour Catherine.
Bonjour Gervais.
Allez-y, on vous écoute.
Bonjour. Alors, merci vraiment hein, pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir m'exprimer sur vos antennes à l'occasion de cette émission très, très intime. Pour nous qui ne parlons pas beaucoup de ce genre de choses.
Justement, c'est l'occasion d'en parler.
Voilà. Ma préoccupation porte fait. Le premier, c'est pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, à un moment, une certaine...
Gervais, on a bien compris que vous aviez très envie de témoigner dans l'émission. Par contre, on ne vous comprend pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous rappeler, parce que c'est important de bien comprendre la nature de votre propos. Et donc, on va essayer de vous rappeler pour avoir une ligne meilleure. On vous prend tout de suite après Dao, qui est en Côte d'Ivoire à Abidjan. Dao, docteur Catherine Solano est à votre écoute. Allez-y.
D'accord. Bonjour docteur, bonjour à l'équipe de Priorité Santé.
Bonjour.
Comme je le disais, moi, c'est un témoignage que je veux faire. Et il y a presque 4 ans de cela que je suis en relation avec une fille. Et ma partenaire en question, au début, c'était pas facile parce qu'elle était beaucoup timide à ce niveau. Elle ne s'exprimait pas du tout. Silence total. Mm-hmm. Mais j'ai compris que, voilà, il fallait donc la rassurer, causer avec elle, discuter pour lui dire que non, mais je suis ton partenaire. Et la personne la plus évidente et avec qui il faut dire ces choses-là, c'est moi. Donc, t'inquiète, tu pourras me dire tes envies. C'est pas méchant, c'est pas mauvais. Donc, voilà comment j'ai procédé. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où c'est libre, quoi. Elle me dit n'importe quoi, en tout cas, tout ce qui lui passe dans la tête, mais poliment, voilà, quoi. On échange tranquillement, au point que même parfois, elle n'a même pas besoin de me dire parce que j'arrive maintenant à comprendre certains actes d'elle, vous voyez. Voilà. Le problème, c'est que, en Afrique, les femmes n'ont pas beaucoup cette éducation. Du coup, elles, souvent, se disent qu'elles seront mal jugées si elles s'exprimaient, si elles disaient ses désirs à son chéri, à son mari. Donc c'est à l'homme qu'il revient la lourde charge de lui transmettre cette aisance-là pour pouvoir lui dire quand elle a envie. Mais il faut pouvoir aussi arriver à donner ce côté-là à la femme avec la manière, parce que c'est vrai qu'il faut la mettre à l'aise, mais comment? Savoir lui parler avec les mots doux, la rassurer pour qu'elle soit vraiment à l'aise, quoi. Et voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui.
Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que des auditeurs comme vous, on en voudrait plus. Hein.
Et des chéris aussi. Hein.
Et vous avez eu des bonnes surprises, justement, quand elle vous a exprimé ses désirs?
Évidemment, je l'ai découvert à nouveau parce que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient enfouies en elle, qu'elle n'arrivait pas à sortir. Et voilà que j'ai découvert le meilleur d'elle après, quoi, voilà, et c'est vraiment parfait.
Ah ouais, c'est chouette, parce que ça montre que si vous voulez quelqu'un qui se dit « Oh, ma partenaire ne parle pas, elle n'est pas marrante », ben, il apprend pas à la découvrir, celui qui se dit « Bon, alors comment je vais faire ?»
Vous lui avez donné les clés.
Ouais, et je trouve qu'il y a des choses, vous avez dit « Je l'ai mise en confiance », ça c'est très important. Vous lui avez dit « C'est naturel d'avoir des envies, c'est normal, à qui tu en parleras si tu n'en parles pas à moi ?» Moi, je suis ton partenaire, donc je suis ton premier interlocuteur, ça c'est très important. Et puis, ce que j'ai compris, c'est que vous avez dit, j'ai mis 4 ans. Ça fait 4 ans. Ça s'est pas fait en un mois, en 15 jours, en une heure. C'est petit à petit. Donc, faut y aller doucement. Et puis, maintenant, ce que j'aime bien, c'est qu'on vous dit, on se comprend sans se parler presque. Hein. Et donc, bravo, vous avez créé une super belle relation. Et en plus, votre sexualité doit être bien meilleure parce que vous avez de l'intimité. Comme on dit des fois, on crée un monde à deux en s'expliquant nos désirs et en parlant que personne d'autre ne connaît que vous. Quand vous dites, je l'ai découverte, nous, on sait pas ce que vous avez découvert, mais c'est super.
Et cette démarche d'AO, elle vous est venue, on va dire, comme ça, de façon, je sais pas, où dans votre famille, on parlait du corps, on parlait des relations, on parlait d'amour, on parlait de respect. Comment ça se passait?
Pas du tout. Bon, déjà, le respect, oui, mais en ce qui concerne la sexualité chez nous, je suis à Caen, c'est vraiment un sujet tabou qu'on en aborde pas du tout. Mm-hmm. Et donc, moi, j'aimerais dire en même temps que l'émission Priorité Santé m'a beaucoup appris des choses avec le docteur Catherine Solano, que je remercie d'ailleurs. Et à ce niveau-là, avec vous, j'ai appris beaucoup de choses, la manière de communiquer. Et puis voilà, j'ai apporté un peu de moi-même, quoi, avec les astuces souvent qu'on lit un peu sur... Voilà comment aborder son partenaire. Tout dépend de la manière avec laquelle on s'y prend, en fait. Voilà. Sinon, toutes les femmes ont ce côté-là. Elles arrivent souvent, elles veulent souvent, même quand bien même que verbalement elles ne s'expriment pas, elles ont toujours des petits gestes pour dire au partenaire que voilà, j'ai telle envie ou j'ai telle. Il y a toujours un geste qu'elles vont faire. Maintenant, c'est au monsieur de pouvoir la rassurer pour qu'elle vraiment trouve le moyen le plus facile de l'exprimer.
Et d'avoir cette grande capacité d'écoute, Dao. Merci beaucoup, hein, pour ce témoignage.
Ouais, bravo. Hein.
Voilà, Dao, bonne journée à Abidjan. On va retrouver à Yaoundé au Cameroun, Gervais qu'on avait perdu tout à l'heure. On espère que la ligne sera meilleure. Hein. Deuxième tentative avec vous, Gervais. On vous retrouve.
Bonjour.
On vous écoute, allez-y.
D'accord, ma préoccupation est la suivante. Hein. Elle porte sur le fait que lors des rapports, j'éprouve à un moment une certaine gêne lorsque celui-ci devient plus long. Surtout quand je constate que ma partenaire atteint son orgasme pendant que moi, j'ai encore envie de continuer. Du coup, je suis obligé de m'arrêter de peur de lui faire mal. Alors la deuxième, c'est par rapport aux nouvelles pratiques, notamment aux nouvelles pratiques sexuelles, notamment le cunnilingus, qu'elle apprécie. Mais du coup, moi, je ne sais pas si cette pratique sexuelle-là a des inconvénients. Et du coup, ça me pose problème parfois.
Alors, deux questions sur, on va dire, une différence, on va dire, de rythme, ou de, voilà. Et puis, sur le sexe oral, docteur Karine Solano.
Alors, déjà, votre partenaire atteint l'orgasme avant vous, souvent ou parfois, et ça vous gêne. En fait, il ne faut pas que ça vous gêne parce que c'est intéressant parce qu'une femme, quand elle a eu un orgasme, son excitation, en général, baisse beaucoup plus lentement que chez un homme. C'est-à-dire qu'elle continue à ressentir une excitation après son orgasme pendant assez longtemps, donc il n'y a pas de problème pour continuer, a priori, sauf si elle vous dit ça me fait mal ou arrête, mais a priori c'est pas gênant, alors que pour un homme quand il a eu son orgasme, souvent c'est désagréable de toucher le pénis par exemple, même il y a des hommes ça leur fait presque mal, donc les femmes n'ont pas tout à fait la même réaction.
Gervais, est-ce que votre compagne justement vous dit en quelque temps ça suffit ou est-ce qu'elle ou elle ne communique pas à ce sujet?
Bon, elle ne dit rien, mais seulement à la voir réagir, je me rends compte.
Ah oui, d'accord. Alors, je pense qu'il faut décoder ça, c'est qu'elle a eu un orgasme, des fois ça vous coupe un peu les jambes, ou vous avez... on dit souvent que c'est comme un élastique qui était tendu, qui s'est relâché, donc il y a une détente, donc on est moins actif, moins tonique, mais ça ne veut pas dire que c'est devenu désagréable pour elle. Donc, alors évidemment, si ça dure trois quarts d'heure, c'est une chose, mais en général, enfin... si ça dure 2-3 minutes, c'est pas non plus une catastrophe. Enfin, voyez, peut-être qu'il faut lui demander justement. C'est ça, lui dire, écoute, quand t'as eu ton orgasme, tu es toute ramollie, je sais pas, tu es moins active. Est-ce que c'est gênant pour toi si je continue? Est-ce que c'est désagréable? Elle va peut-être vous dire, bah, parce que des fois c'est même agréable, parce que on dit des fois qu'avoir un orgasme qui est pas en même temps, c'est très agréable parce que vous la voyez avoir son orgasme, vous la sentez avoir son orgasme, et puis ensuite elle vous sent avoir votre orgasme. Alors que quand c'est en même temps, on est chacun dans son plaisir et on est des fois moins connecté. Donc les deux sont intéressants et ça la gêne peut-être pas. Demandez-lui.
Nécessité de communiquer à ce sujet.
Ouais. Et alors le cunnilingus, les dangers, disons, par rapport au VIH, il n'y a pas, sauf pendant les règles, je précise, parce qu'il y a la présence du sang, il n'y a pas de risque a priori. Pour les autres infections, il peut y en avoir, mais c'est comme l'herpès, c'est comme s'embrasser sur la bouche. Si vous avez de l'herpès sur les lèvres, vous pouvez la contaminer. Si elle en a, les autres IST, mais c'est quand même...
Vous avez quoi comme crainte particulière par rapport à cet acte, Gervais? Qu'est-ce que vous avez peur de quoi?
Bon, vous savez, la flore vaginale, c'est souvent un peu un genre, bon, je sais pas.
Alors la flore vaginale, c'est des bons microbes, hein. C'est pas du tout dangereux ça, la flore vaginale. Non, par contre, si vous voulez, si votre partenaire a des boutons, des vésicules, des brûlures ou quelque chose, ou des pertes qui sont très mauvaises, donc une infection ou quoi, bien sûr, on fera pas de cunnilingus, mais dans ces cas-là, elle en aura pas envie non plus, et vous non plus. Donc si tout va bien, a priori, il n'y a pas vraiment de risque. Quand on a vraiment une infection sexuellement transmissible, on peut utiliser un préservatif coupé dans le sens de la longueur qu'on pose, ou ce qu'on appelle une digue dentaire, c'est un carré de plastique en fait, enfin ou de latex que les dentistes mettent sur la gencive, qu'on pose sur la zone sexuelle et faire un cunnilingus au travers de ça. Mais franchement, c'est pas très utilisé.
Ni
très romantique, il faut reconnaître.
Gervais, très bonne journée. Très bonne journée à Yaoundé. Excusez-moi des fois
non,
comme ça.
Non, mais c'est une possibilité quand même.
Absolument, on comprend bien. Très bonne journée à Yaoundé, Gervais. On va prendre un dernier auditeur parce qu'il nous reste plus que 5 minutes pour échanger. On rejoint la Guinée où l'on retrouve Bamba Conakry. Bonjour Bamba.
Oui, bonjour madame. Bonjour docteur.
Docteur bonjour, Solano, bonjour. À votre écoute, allez-y.
D'accord. Moi, mon problème se résume comme suit.
il y a bientôt 6 mois que j'habite loin de ma femme. Et vu mon éloignement, je lui ai demandé de prendre une contraception. Mais ma femme m'a toujours répondu qu'elle resterait fidèle. Pour elle, la prise d'un tel médicament est signe d'infidélité. Mm-hmm. C'est pourquoi je suis très inquiet pour l'avenir de notre couple qui a 6 enfants. Mm-hmm. Donc, mes questions sont les suivantes. Pendant combien de temps une femme qui n'est pas en période d'allaitement peut être capable de se priver de tout désir sexuel et de s'abstenir de tout rapport sexuel? Deuxième question. Un très long moment d'abstinence ne peut-il pas avoir une maladie au niveau de la femme? Et troisième question, est-ce que son engagement peut être réaliste, c'est-à-dire se priver de tout désir sexuel? Merci.
Alors, Bamba, on a bien compris, vous interrogez sur la capacité même physique, hein, physiologique de votre femme à rester sur une longue période sans relation sexuelle. Docteur Catherine Solano.
Alors, on peut très bien rester des années sans rapport sexuel. Surtout dans votre couple, je dirais, on entend bien que vous tenez énormément à votre épouse et quand on a une relation de grande qualité où on comprend que l'autre tient à vous, ben c'est beaucoup plus facile de pas avoir de partenaire extérieur. Hein. C'est tout à fait possible. Et quand vous dites qu'elle se prive totalement de désir, non, elle peut avoir du désir en pensant à vous. Je dirais même peut-être en voyant un autre homme, mais ça veut pas dire qu'elle va avoir un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de lui téléphoner autant que vous pouvez ou de lui envoyer des messages pour qu'elle sente que vous être présent. Parce que, si vous voulez, il y a des femmes qui ont un amant alors que leur homme dort tous les jours dans le lit avec elles, mais parce qu'elles ont l'impression que leur mari est absent. Il s'occupe que du boulot, que du sport, que du foot, et jamais d'elles, et ben elles ont l'impression d'être toutes seules. Il y a des femmes qui ont un mari loin comme vous, Bamba, mais qui se disent « Mon mari, il m'aime, je sens qu'il est là, il s'occupe de moi, et donc vous pouvez être quasiment plus présent. » Ça remplace pas les rapports sexuels, mais donc votre femme, elle peut tout à fait être fidèle, c'est vraiment
et
pas...
Et la deuxième question, c'était parce qu'il nous reste peu de temps. Oui. Est-ce que ça risque d'être mauvais pour sa santé?
Ah ben non, alors il n'y a aucun problème pour la santé. C'est plutôt les partenaires multiples qui peuvent être mauvais pour la santé à cause des infections sexuellement transmissibles. Mais ne pas avoir de rapport sexuel, c'est pas mauvais pour la santé.
Voilà pour ces questions. Bamba, est-ce que vous êtes rassurée?
Non, madame, vraiment, je suis très très satisfait. Merci beaucoup. Et mon inquiétude vraiment...
Donc vous avez bien entendu le conseil, appelez-la souvent pour entretenir la flamme.
Voilà, et je rajoute qu'il y a aussi des hommes qui restent longtemps sans partenaire sexuel extérieur quand ils ont une amie qui, ou une femme qui est loin.
Voilà, et bien très bonne journée à vous à Conakry, Bamba, et merci beaucoup, hein, merci infiniment docteur Catherine Solano pour toutes ces réponses que vous venez d'apporter à nos auditeurs et nos auditrices. On vous retrouvera bien sûr jeudi prochain sur RFI pour d'autres conseils, toutes ces questions sur la page Facebook de Priorité Santé. Notre émission qui touche à sa fin. Au revoir Catherine.
Au revoir Caroline. Merci à tous nos auditeurs.
Et merci à toute l'équipe hein, qui chaque jour fabrique cette émission. Demain, on va parler de l'AVC, du handicap, la vie après un accident vasculaire cérébral, rééducation, réadaptation. On attend vos messages au 33 1 84 22 75 75 et bien sûr sur les réseaux sociaux. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les bons chefs d'entreprise, bénéficiez de l'indemnité fin de carrière de vos employés sans préjudice avec Suno Assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.